À toutes et à tous, merci à ceux qui restent quand même, c'est sympa, pas travailler pour rien, je rigole bien sûr, on prépare la fête en bas et j'aimerais aussi vous parler de fête ce matin, une fête qui un peu bizarrement n'a pas pris en Europe comme Halloween l'a fait. La semaine passée pour ceux qui étaient là, on a eu... l'histoire d'un homme qui sortait des tombeaux, donc c'était assez bien dans le contexte halloweenien, si on peut dire. Mais étonnamment, la fête dont je veux vous parler, c'est Thanksgiving. Et comme si ce n'était pas arrivé en Europe et les Européens préféreraient la peur et l'effroi à la reconnaissance. Étonnant, non? Alors Thanksgiving, déjà c'est dur à prononcer, hein. Peut-être la plupart d'entre vous, vous connaissez ça à travers des séries américaines, où on voit dans Friends ou autre, ils mangent la dinde et des trucs à la citrouille à un moment donné. Et moi, j'ai eu la chance de... Donc déjà, il y a deux Thanksgiving, il y a un Canadien et un Américain. Et donc jeudi passé, c'était Thanksgiving américain. Et moi, j'ai toujours eu le droit, puisqu'on a des origines de par là-bas dans la famille, d'avoir une dinde. Alors c'est un challenge en Europe de trouver une dinde mi-novembre, hein. Elles sont toutes prêtes pour la fin décembre, mais pas avant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette fête? Ça peut être traduit par, donc il y a thanks, hein, merci, et giving, donner, donner merci, action de grâce, en français, ça a été traduit comme ça. Alors, peut-être ça a autant perdu son sens outre-Atlantique que Noël par chez nous. Je ne sais pas, je suis peut-être un peu sévère là, mais bon, voilà. En tout cas, au lieu de Thanksgiving, la semaine passée, ici en Europe, on a pris le... C'était quoi, vendredi? Oh, quand... Vous n'avez pas regardé vos boîtes mail? Ça croulait d'offres du Black Friday. Black Friday, les Américains, ils sont forts en marketing quand même. Donc après Thanksgiving, on a Black Friday le lendemain. Et puis donc là, on a des soldes monstres. Et comme ils sont encore très forts... Le mardi d'après, ils ont un peu mauvaise conscience, donc ils ont inventé... Ah, vous ne connaissez pas celui-là. Giving Tuesday. Giving Tuesday, c'est-à-dire que le mardi d'après, c'est-à-dire après-demain, eh ben, c'est le moment de donner. Faire quelques dons, si vous reste un peu d'argent, vous pouvez faire quelques dons à des associations. Donc après la ripaille du jeudi, les dépenses monstres du vendredi, le mardi d'après, s'il reste un peu d'argent, on va donner. Bon, trêve de plaisanterie. Revenons un instant sur Thanksgiving et on va faire un peu d'histoire. J'aurais pu préparer un quiz, mais je ne l'ai pas fait. Revenons à la source de Thanksgiving, cette fête de la reconnaissance. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu? Pas trop, hein? Ah ouais, on est un peu loin de l'Amérique. Hein. Donc il faut remonter au XVIIe siècle et précisément en 1620, où il y a un bateau qui s'appelait le Mayflower, a transporté vers l'Amérique une centaine de passagers, notamment des puritains, ce qu'on a appelé les pères pèlerins. Donc c'était des membres de l'église anglicane, mais qui étaient un peu séparatistes, qui étaient un peu persécutés aussi. Et donc eux se sont dit, on quitte et on part vers le Nouveau Monde. Donc c'était la seconde colonie anglaise qui est arrivée. Et donc, on était loin des records de la route du Rhum. Ils sont arrivés au Cape Cod 2 mois après, donc le 21 novembre. Et alors, ils débarquent, ils créent cette colonie de Plymouth et ils sont en fait en territoire indien, amérindien. Et la tribu qui habite là, c'est les Wampanoag. Voilà, moi j'ai appris quelque chose en lisant ça. Et donc voilà, ils commencent à s'installer, à coloniser et à écrire la première constitution. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vécu un hiver très rude. Et à peu près la moitié, la centaine d'immigrants qui étaient partis, qui avaient quitté l'Angleterre, sont morts. Et petit à petit, ils se sont dit, mais plutôt que de faire notre microcosme, on va essayer de s'associer à cette tribu indienne des Wampanoag. Et donc, ils ont fait un traité de paix, parce que quand même, ils débarquaient quand même en territoire qui appartenait à quelqu'un d'autre. Hein. C'était une époque assez étrange. Certains essayent de faire ça encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu en fait une certaine coopération. Cette tribu indienne, elle a commencé à enseigner à ses pèlerins leur savoir-faire, notamment la plantation de maïs, la pratique de la pêche, différentes techniques culturales qui ont permis à cette petite colonie anglaise, donc ils étaient plus qu'une cinquantaine, d'avoir en fait une excellente récolte l'automne suivant, d'où l'histoire des courges. Et donc, pour remercier les Indiens, et pour célébrer les bonnes récoltes, et pour remercier Dieu, le gouverneur de l'époque, qui s'appelait William Bradford, a invité tous les Indiens à un repas festif, et c'est ça qui est considéré comme le premier Thanksgiving. Et alors, paraîtrait-il que certaines dindes sauvages ont été attrapées au passage pour agrémenter le repas. C'est pas la fin de l'histoire. Alors, depuis cette époque-là, chaque année, les Américains fêtent ce Thanksgiving pour se souvenir, remercier Dieu des bonnes récoltes. Et les navires se sont succédés. Il y en a un autre qui s'appelait le Fortune, donc qui a apporté un peu la famille des gens du Mayflower. Et petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'invasion, ce qu'on a appelé une certaine invasion silencieuse des Anglais en territoire indien s'est produite. Alors, il y a eu des conflits armés, et surtout, ce qui a été problématique pour les Indiens, c'est que les Européens ont importé quoi ? Les maladies, merci docteur. Et effectivement, en 1633, il y a une épidémie de variole qui a éclaté. Et les historiens ont eu cette phrase intéressante. Au fur et à mesure que la population puritaine s'accroissait, leurs hôtes, c'est-à-dire les Indiens, disparaissaient. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, qui est véridique. Moi, elle m'interpelle à plus d'un titre. Hein. Si on résume, donc on a des pèlerins qui fuient une forme de persécution en Angleterre et qui partent sur la côte est américaine. Les Amérindiens les accueillent et ils leur enseignent leur savoir-faire. Un savoir-faire qui fonctionne puisque leurs récoltes sont excellentes. Les pèlerins sont reconnaissants. Ils célèbrent cette récolte tous ensemble avec les Amérindiens et hop, on fait la fête. Et pourtant, petit à petit, les pèlerins vont de moins en moins vivre en harmonie avec ces habitants natifs d'Amérique. Et ils vont être décimés par des maladies importés en même temps que les colonies. Moi, j'ai envie de dire, mais quelle injustice. Et cette fête célébrée d'année en année est basée sur cette injustice, en fait, basée sur un transfert de connaissances au départ qui a mal tourné. Alors, je n'ai pas enquêté plus loin des raisons, mais bon, la raison, elle est toujours la même, c'est le cœur de l'homme qui, finalement, regarde à lui-même. Alors, dans la Bible, on a de nombreuses fêtes aujourd'hui aussi, et notamment dans l'Ancien Testament. Et ce matin, j'aimerais faire un focus sur une fête qui s'appelle, qui a été encore moins reprise en Europe, hein, qui s'appelle la fête des huttes, ou Sukkot. Hein, c'est la troisième fête annuelle de pèlerinage, il y a les trois fêtes de pèlerinage, et elle se situe en septembre-octobre. Et en français, alors il y a plusieurs appellations, fête des tabernacles, fête des tentes, ou fête des huttes ou cabanes. Vous trouverez un peu toutes ces terminologies. Alors pourquoi fête des huttes ou fête des cabanes ? Eh bien parce que ça faisait allusion aux huttes de branchage qu'on élevait dans les vignes et dans les vergers pendant la récolte des fruits, des olives et pendant les vendanges, sans doute pour s'abriter du soleil. Et alors, pendant cette fête, c'est aussi une fête de la récolte. Donc, c'est pour ça que je fais le lien avec Thanksgiving. Parce qu'on récolte les fruits de la terre, on rend grâce à Dieu en le célébrant au temps des moissons. Et c'est la fête la plus importante de l'Ancien Testament. Lévitique 23-39 l'appelle la fête de Dieu. Et Ézéchiel 45 la désigne simplement comme la fête. C'est-à-dire que c'est le prototype de fête chez les Hébreux. Donc c'est la fête par excellence, et alors ce n'est pas une fête qui dure une demi-journée, c'est une fête qui dure 8 jours en fait. C'est assez conséquent au Moyen-Orient, quand on fait la fête, on la fait bien. Et évidemment, s'accompagner à l'époque, sous l'ancienne alliance, de pas mal de sacrifices de différents types pour remercier Dieu. Et c'était la fête où il y avait le plus de sacrifices. Alors, on va lire un passage dans Deutéronome 16, au verset 13. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira. En effet, l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Verset 16. Trois fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, en fonction des bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Voilà la description de la fête des huttes, ou fête des cabanes. Alors, c'était d'abord une fête du souvenir, un souvenir de l'errance dans le désert pendant 40 années. C'est un mémorial, on pourrait dire. En séjournant 7 jours dans des huttes, le peuple d'Israël transmet de génération en génération ce souvenir où il a erré dans le désert et habité sous des tentes. Et donc, très concrètement, pendant cette fête, chaque famille est invitée à construire une hutte. Elle est décorée de fruits, elle est couverte de branchages verts, et on y habite pendant toute la fête, pendant 7 jours plus un, parce qu'il y a le 8e jour où c'est le top de la fête. Et donc, même après la construction du temple à Jérusalem, les cabanes sont élevées partout, sur les terrasses, dans les cours intérieurs des maisons, et même jusque dans les parvis du temple. Néhémie en parle, chapitre 8, verset 16. C'est intéressant, cette pratique de se remémorer. Ça rappelle le séjour au désert, et ça permet surtout de ne pas oublier que les réussites économiques en Canaan ne doivent pas faire oublier une chose, c'est qu'il y a cette dépendance spirituelle et matérielle d'Israël vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est ce que moi, je retiens de cette fête du souvenir. Alors, c'était une fête vraiment joyeuse. Comme j'ai dit avant, elle durait déjà 8 jours. Et on a des informations aussi extra-bibliques. Et une d'entre elles est intéressante, c'est qu'il y avait 4 immenses chandeliers qui étaient dressés devant l'entrée du temple. Et en fait, ça offrait aux pèlerins un espace éclairé, un dance floor, dirait-on aujourd'hui, pour effectivement danser et se réjouir le soir, à la tombée de la nuit, avec musique et danse. Et donc, c'était vraiment la fête super joyeuse. Alors, il y a un historien qui écrit une chose qui est intéressante. Celui qui n'a pas vu la joie de cette fête de nuit n'a dans toute sa vie vu aucune vraie joie. Voilà. Et puis le troisième élément, c'est que c'était une fête porteuse, donc tournée vers le passé, parce qu'on se souvenait qu'on avait erré dans le désert, mais une fête porteuse d'avenir et d'espérance. Hein, c'est une fête qui exprime une idée de survie, d'une part, mais aussi de lendemain possible, d'un avenir, d'une espérance. Et de façon sous-jacente à cette fête, il y a l'idée que l'abondance de biens d'Israël, après l'entrée en Canaan, ne pouvait durer que le peuple était fidèle à Dieu. On a entendu tout à l'heure des prières qui sont justes. Bon, elles viennent du cœur, donc elles sont justes de toute façon. Mais où on remerciait Dieu pour les choses matérielles qu'on avait. Et l'idée de la fête des huttes, c'était ça, mais c'était un plus que ça. C'était que Dieu, il pourvoit pour nos moyens de subsistance, mais il est aussi bien plus que ça. Il est le maître de toute vie. Et fêter les récoltes, ça se fait dans pas mal de cultures, fêter les récoltes, c'est bien plus que simplement remercier pour une année où il n'y aura pas de faim, F-A-I-M, pas de famine. C'est, dans le peuple d'Israël, c'est l'affirmation que le temps du désert est fini et que l'homme est à l'abri du manque parce que Dieu est avec lui. Et donc c'est la vision d'un Dieu qui est plein de tendresse, de compassion, de sollicitude. Alors, que peut-on tirer de cette fête qui nous paraît encore plus loin que Thanksgiving, la fête des huttes? Ça pourrait être assez sympa pourtant avec les enfants de construire des cabanes, je trouve. Mais... qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nos vies ce matin? Première chose que moi j'en tire en tout cas, c'est qu'on doit cultiver la reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact sur notre santé mentale et sur notre santé physique. Alors la Bible nous appelle et Dieu nous appelle clairement à pratiquer la reconnaissance, la gratitude. Et c'est vrai, en tout cas je parle pour moi, notre état naturel d'être humain nous fait souvent voir ce qui est négatif, n'est-ce pas? Ce qui ne fonctionne pas. Chez l'autre, souvent moi je relève finalement bien plus facilement les défauts que les raisons pour lesquelles je devrais être reconnaissant de l'avoir dans ma vie. D'ailleurs, ma femme se plaint de ça des fois. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dans Lévitique 23, il répétait par trois fois dans ce chapitre où sont listées différentes fêtes, et cette fête en particulier, Dieu l'institue comme une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations partout où vous habiterez. Et ça, c'est répété trois fois. C'est important que la reconnaissance est importante, elle est même un commandement de Dieu. Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 5:17, « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et les psaumes sont évidemment des endroits où il y a beaucoup de reconnaissance. J'en cite juste un, psaume 103. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie de ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alors, d'après certaines études scientifiques, alors en plus de combattre les émotions négatives et les sautes d'humeur, les chercheurs ont trouvé que la pratique de la gratitude aide à réduire jusqu'à 23%, attention, c'est précis, la proportion d'hormones comme le cortisol qui sont produites en réponse à un stress psychologique ou physiologique. Et donc quelque part, en pratiquant cette gratitude, en percevant la vie plus positivement, le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire la partie apaisante, s'active pour combattre le cortisol, qui est l'hormone du stress, et même augmenter l'ocytocine, l'hormone du bien-être dont on parle souvent. Bien plus, d'autres études ont montré que la reconnaissance des bienfaits qui nous ont été accordés, et particulièrement dans des périodes de difficultés ou de conflits, peut réduire les taux de stress post-traumatique et favoriser un sentiment accru de résilience, cette capacité de rebondir face aux difficultés. Autrement dit, même en période de stress, on est plus apte à faire face à l'avenir. Et dans le psaume 103, le psalmiste qui n'avait pas fait ces études scientifiques-là dit finalement exactement la même chose. Mais il dit une chose en plus. Il dit que la gratitude vis-à-vis de Dieu se fonde sur des éléments essentiels. D'abord, c'est Dieu qui nous enlève la culpabilité, pardonne nos fautes. C'est Dieu qui apporte la guérison de nos corps, avec l'aide du médecin bien souvent. Et c'est Dieu qui nous permet même de vivre. On a souvent des promesses pour les jeunes. Ici, c'est une promesse pour les gens plus âgés. C'est Dieu qui nous permet de vivre une vieillesse paisible, voir nous donne le sentiment de rajeunir. C'est bien, hein ? Voilà des bonnes raisons d'être reconnaissant, n'est-ce pas ? J'ai passé 40 ans maintenant, alors je cherche des choses qui m'aident à rajeunir. Non, je rigole. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, et François en a parlé ce matin, j'avais un peu peur qu'il me spoil tout le thème quand il m'a demandé sur quoi j'allais parler, mais ça va. C'est qu'il ne faut pas oublier qui est la source de la fête et qui est la source de notre reconnaissance, ou qui devrait l'être. Alors, lors de la fête des huttes, il y avait aussi un rituel de libation, donc c'est des offrandes liquides. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'à Jérusalem, la foule se rendait au réservoir de Siloé, et à cet endroit-là, il y avait un prêtre qui puisait de l'eau avec une cruche en or. C'est très codifié, hein, les fêtes en Israël. Et cette eau était ramenée en procession au temple, mélangée avec du vin et répandue au pied de l'autel. C'était ça la libation. Et donc, on parle très peu de cette fête dans le Nouveau Testament. Il y a une ou deux occurrences, et une d'entre elles, c'est en fait quand Jésus dit, dans Jean 7, 37-38, et il fait référence à ces libations, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jean précise que c'était au grand jour de la fête de Soukhot, la fête des huttes, que Jésus a prononcé cette parole, le dernier jour, ce fameux huitième jour. Et alors, on le sait tous, que la source de notre reconnaissance ou de notre gratitude ne devrait pas être des circonstances ou des biens matériels, pour une simple raison. Que ces aspects sont variables, ces aspects sont éphémères. Alors évidemment, c'est plus facile d'être reconnaissant quand tout va bien, n'est-ce pas ? Moi le premier. C'est facile d'être reconnaissant quand je dors au chaud la nuit. C'est facile d'être reconnaissant quand je ne pense pas au challenge d'avoir un repas le soir. Et finalement, sur quoi est basée ma reconnaissance ? Ça, c'est une vraie question à laquelle on peut réfléchir longtemps. Sur quoi est basée ma reconnaissance, en fait ? Est-ce qu'elle est basée sur mes biens matériels ? Est-ce qu'elle est basée sur une situation, sur une réputation ? Ou est-ce qu'elle est basée sur la source d'eau vive, Jésus ? Peut-être que vous avez réussi votre vie selon les standards de notre société de consommation, mais que finalement, vous êtes terriblement vide et assoiffé. C'est parce que Jésus devrait être la seule source de gratitude. C'est le seul à pouvoir pourvoir ce dont nous avons vraiment besoin. Et alors, tout ce qu'on lit sur la gratitude, c'est bien. Mais ça ressemble parfois à une méthode couée de positivisme. Hein, qui se focaliserait uniquement sur le positif de nos vies en occultant le négatif. Et donc, il faut forcément que l'objet de notre reconnaissance, elle aille au-delà de dire merci la vie, qu'elle aille au-delà de nos circonstances et biens matériels. Et c'est là où il faut revenir à la source de la vie, prendre de la hauteur. Et c'était ça le sens de la fête des récoltes. Au-delà des résultats des récoltes, c'était reconnaître que tout dépend de Dieu. C'était reconnaître que c'est lui qui fait pleuvoir, c'est lui qui fait germer les graines. Et tout ça, c'est peut-être abstrait si vous n'êtes pas agriculteur. Quoique on est en train de prendre conscience de ça en Europe avec les déficits d'eau. Et si vous étiez en Somalie à l'heure actuelle, par exemple, vous pourriez très bien le comprendre. La Somalie connaît une sécheresse historique, avec 4 saisons de pluie de suite défaillantes depuis fin 2020, qui a ravagé les cultures, qui a décimé le bétail. Et on estime que depuis janvier 2021, il y a 1,1 million de personnes qui ont quitté leur foyer en quête d'eau et de nourriture. Selon l'ONU, 7,8 millions de personnes, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population somalienne, ont besoin d'aide humanitaire. Alors, je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, ça plutôt pour nous faire relativiser. Imaginez, vous êtes dans cette situation, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est crier à Dieu pour qu'il sauve vos vies. N'est-ce pas ? Ça m'amène à mon troisième point. La reconnaissance, la gratitude, elle implique forcément une chose. C'est la générosité et le partage. Lévitique 23-22 dit une chose. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord. » Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu laisseras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'aime bien ce principe mis en avant par le Lévitique. C'est-à-dire que la bénédiction et la reconnaissance de celle-ci, elle n'est pas vécue de façon égoïste. Le partage est au centre. Et tout comme les pèlerins du Mayflower, souvenons-nous, se réjouissaient, en tout cas au tout début, avec les Amérindiens des récoltes et les partageaient, eh bien, de la même façon, on est appelé à pratiquer la générosité. Alors, on est dans des sociétés un peu d'abondance. En plus, on n'habite pas très loin. Et l'abondance, en fait, selon le plan de Dieu, elle suppose pas l'accaparement, elle suppose le partage. C'est bien d'être prévoyant, mais la prévoyance n'exclut pas la générosité. Et je trouve intéressante cette image du champ qui n'est pas complètement récolté, pas complètement moissonné. Si on transpose ça à nos vies, on pourrait toujours se dire « Ah, mais j'ai quand même travaillé dur pour avoir ce que j'ai. » Et c'est vrai, bien souvent. Et donc on mérite d'en profiter pleinement, n'est-ce pas ? C'est un type de raisonnement. La parole nous dit autre chose. Elle dit pas forcément de prévoir. Alors, prévoir une marge de sécurité, c'est bien. Mais entre la marge de sécurité et l'accaparement, des fois, on ne fait plus trop la différence. Et dans ce texte, en fait, ceux qui récoltaient, abandonnaient, entre guillemets, une part de la moisson pour ceux qui n'étaient pas en mesure de cultiver. Bon, notez bien qu'ils devaient quand même faire leur part et récolter la part du champ qui n'était pas récoltée. Et donc la Bible nous appelle clairement à la solidarité avec le pauvre et l'étranger. Et si on revient sur la fête des cabanes, dans Deutéronome 16-14, la fête incluait tout le monde. Tout le monde est convié à la fête. Verset 14, « Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. » Même les gens de passage, tout le monde est invité. Voilà, quand il y en a un pour cinq, il y en a pour 10. Ça, moi j'ai vécu aussi des invitations comme ça en Afrique, de gens... Burkina notamment, de gens qui n'avaient pas grand-chose, mais ils t'invitent encore. Voilà la vraie générosité. Conclusion. Je me demandais si c'était le premier dimanche de l'Avent. Effectivement. Merci. C'est très joli d'ailleurs. On entre dans l'Avent. Je ne sais pas si grand monde sait encore ce que c'est l'Avent. C'est une période de 4 dimanches avant Noël, censée préparer nos cœurs. Ce que je vois quand je vais pas trop dans les magasins, mais maintenant il y a des calendriers de l'Avent pour tout. Il y a même un calendrier de l'Avent avec 24 bières différentes. J'étais tenté l'autre fois, mais recentrons-nous sur l'essentiel. Et peut-être une question qu'on peut se poser, que je me pose à moi-même ce matin, et voilà, un petit défi. Et dans quelle mesure est-ce qu'on va vivre ces prochaines semaines plein de gratitude pour celui qui est venu dans notre monde ? Et je pense que c'est un joli défi, d'autant plus quand vous avez des enfants. Parce qu'il y a beaucoup de ces lumières factices qui vont tenter de nous aveugler encore cette année. Voilà. Alors prions qu'on puisse être recentré, qu'on puisse pleinement fêter Noël qui vient avec le sens qui lui est dû et pas le sens que le monde lui donne. Prions. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es vraiment le sujet de notre joie. Tu es celui pour qui on veut faire la fête. Toi, le peuple d'Israël passait 8 jours non-stop à faire la fête en ton honneur. Est-ce qu'on se réjouit autant? Ouais, aide-nous, Seigneur, à nous remémorer, aide-nous à reconnaître que même si nous perdions tout, tu serais là. Pour pas mal de personnes dans ce monde, ces derniers temps, c'est un peu ça. Et on veut être solidaire avec ces personnes-là. On veut que tu nous montres aussi comment on peut être généreux, comment on peut partager, comment on peut enseigner ça aussi autour de nous. Travaille nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse te glorifier de plus en plus, qu'on puisse te remettre au centre de la maison. On puisse se réjouir en toi parce que ça nous fait penser aussi à une autre fête qui aura lieu, qui s'appelle les noces de l'agneau, et qui seront là et tout le monde est invité. Tout le monde est invité, personne n'est laissé au bord du chemin. C'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous, c'est ce que tu veux pour nos contemporains. Aide-nous aussi à être des lumières autour de nous pendant cette période-là. Amen.